franceinter.fr.
On reviendra dans quelques instants avec Antoine Gignot, le correspondant permanent de France Inter à Londres, sur les titres de la presse britannique ce matin au lendemain de ces élections législatives. Mais d'abord la presse française avec vous, Hélène Jouan, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes, nous, à deux jours du premier tour des élections législatives.
Oui, du coup, petit coup d'œil sur les unes françaises. Législatives, le dernier acte du dégagisme, pronostique le journal Opinion. Big Bang en perspective à l'Assemblée nationale pour les Échos. Le quotidien économique anticipe déjà les résultats sur la foi des sondages. Macron aura les coudées franches pour réformer, affirme-t-il. Quand l'humanité, une dernière fois, appelle face à la régression en marche, dit-il, à élire des députés de combat. À deux jours du premier tour, on notera que Libération prend la tête du combat contre l'état d'urgence permanent, titre de une. Après la diffusion par Le Monde hier, l'avant-projet de loi destiné à transposer dans le droit commun bon nombre de mesures qui relèvent de l'état d'urgence. Avec un procédé efficace pour le moins, en guise d'édito, pas le courroux d'un éditorialiste, non, les propres paroles d'Emmanuel Macron pendant la campagne. La volonté des terroristes est de déstabiliser le pays, de l'atteindre dans ce qu'il a de plus fondamental. Dans ces circonstances, disait celui qui n'était alors que candidat, le rôle d'un président est de protéger les Français. Cela ne consistait pas, affirmait-il, à céder à quelques surenchères. Sentiment de Dupri, dit ce matin Libération. Douche froide pour tous ceux qui, à gauche, avaient cru à la sincérité de Macron. La vague d'attentats au Royaume-Uni et son souci de rassurer l'électorat de droite en vue des législatives semblent avoir convaincu Macron de charger la barque, conclut Nathalie Rollin. Et puis, si Libé est ostensiblement sur ses gardes, eh bien, notons que le Figaro, lui, est ostensiblement heureux. Le quotidien libéral est en effet ravi des premières annonces du gouvernement Macron en matière d'éducation. Cette fois, non-redoublement, rythme scolaire, suppression des classes bilingues, un ministre à l'école du réel, s'exclame dans son édito Laurence de Charette pour saluer les premières décisions de Jean-Michel Blanquer. On ne peut que se réjouir d'un tel changement de vue et espérer qu'il entraîne la disparition des mythes égalitaristes qui ont fait tant de mal à l'éducation nationale.
La presse revient également ce matin sur le témoignage de l'ancien directeur du FBI, James Comey.
Liar, menteur, titre le New York Daily News. Pleine page avec la photo du président américain, mais à la fin, c'est Trump qui a encore gagné, affirme pourtant Jean-Éric Brana sur le site TheConversation.com. Car qu'est-il sorti de cette audition de James Comey devant le Sénat dans une mise en scène digne d'un Super Bowl politique? Bruno Audan dans l'Humanité affirme que son témoignage a surtout révélé de façon accablante un mode de gouvernance de Donald Trump, un comportement de chef qui renvoie bien davantage à la rouerie d'un parrain de gang mafieux qu'à la hauteur de vue minimale requise pour un homme d'État. Sauf que Brana relève, lui, que Comey a été crucifié sur place quand un sénateur républicain lui a demandé si quiconque n'avait jamais été condamné pour avoir espéré quelque chose. C'est ce que Trump aurait dit. Il espérait que l'enquête sur Flynn s'arrête. Oui, à ce moment-là, la messe était dite, écrit Brana. D'autant que Comey a reconnu qu'aucune enquête ne portait sur Trump et sur ses liens avec la Russie. Voilà, on peut toujours lui mettre sous le nez des preuves accablantes sur ses proches. Il vient, lui, d'être disculpé. Il ressort blanchi, affirme-t-il, de cette folle journée. Il n'y a donc pour le moment aucune chance de voter un impeachment. Ce n'est pas encore le début de la fin, conclut-il.
On termine cette courte revue de presse française avec deux conseils de lecture.
Oui, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Patrick Boucheron, d'abord dans M, le magazine du Monde. Dominique Perrin revient sur le phénomène Boucheron, qui avec son histoire mondiale de la France a fait aimer l'histoire au grand public. 85 000 exemplaires vendus, c'est carrément un best-seller pour le genre, mais qui s'est aussi pris une volée de bois vert des néo-réacs français type Zemmour ou Finkielkraut, qui l'ont accusé de vouloir déconstruire l'identité française. Alors, l'histoire serait-elle devenue aussi un sport de combat, pour paraphraser Bourdieu ? Vous avez 4 heures, nous dit la journaliste. Et bien en fait, en 3 pages, elle parvient à nous rendre compte intelligemment de ces fractures intellectuelles qui divisent aujourd'hui la France. Et puis, Charles Aznavour à la une du nouveau numéro de Schnock, interview de celui qui compte bien fêter ses 100 ans sur scène. Filmographie, discographie de celui qui a travaillé avec les plus grands, qui a connu les plus grands succès. Mais être une vache sacrée, eh bien ça n'enlève rien à la lucidité. Je suis assez lucide, dit-il, pour reconnaître qu'une partie de mon succès, je le dois au fait que pas mal de paumés se disent « Bon, si Aznavour, avec sa tronche et sa petite taille, a réussi dans la vie, pourquoi pas moi ? Je suis un espoir ambulant, espoir ambulant. Ce sera le mot de la fin de cette revue de presse française.
Merci Hélène Jouan, direction Londres, où nous attend Antoine Gignot qui a lu, feuilleté déjà les journaux britanniques ce matin ainsi que la presse en ligne. Quelle est la tonalité globale, Antoine ?
La tonalité, elle s'articule autour de cette défaite de Theresa May, une pièce de théâtre aux allures de drame, écrit le Times. Tout était en place, les décors, les protagonistes. Et puis il y a eu ce silence au siège des conservateurs à mesure que tombaient les premiers résultats. Pourtant, c'était la grande nuit, celle qui devait définitivement donner le pouvoir à Theresa May, l'imposer comme chef de parti, comme dirigeante forte et stable. C'était son slogan de campagne. Elle est désormais catastrophiquement affaiblie, écrit Robert Wright dans le Financial Times. Et c'est d'autant plus grave que les négociations autour du Brexit commencent avec Bruxelles dans quelques jours à peine. Les négociations autour du divorce vont être plus compliquées. Même le Télégraphe, quotidien de droite, très acquis aux conservateurs, pointe la débâcle de Theresa May et titre « La Grande-Bretagne vote pour le chaos ». Le Financial Times met également à la une de la photo de la Première Ministre, veste rayée, bleu marine, immobile avec des dossiers à la main, les yeux dans le vague. George Osborne, également ancien chancelier de l'échiquier, poussé hors du gouvernement par Theresa May, prend sa revanche dans l'Evening Standard, dont il est le rédacteur en chef. La première ministre, dit-il, ne survivra pas à long terme. Les tabloïds, eux, crient au désastre. Theresa Mayhem affiche en une le Sun, avec un jeu de mots sur l'abîme dans lequel plonge la première ministre, et cette photo d'un trader qui se frappe le front de désespoir face au plongeon de la livre face au dollar. La presse de gauche, elle, sourit ironiquement. Côté politique, tout est bloqué, explique Zoé Williams dans le Guardian, avec derrière ce constat un blocage politique. Vous allez adorer, il n'y a pas de gagnant, presque tout le monde a perdu. Le Guardian qui détaille les raisons pour lesquelles Jeremy Corbyn a réussi son hold-up électoral. Il y a cette campagne exceptionnelle du leader travailliste, 11 000 kilomètres à travers le pays, et puis les militants qui l'ont soutenu, ces fanatiques décrits dans la petite ville de Colwyn Bay. Personne ne pensait, écrit le correspondant local, qu'il y avait autant d'habitants dans cette localité. C'est l'une des clés de ce scrutin. Les travaillistes ont parlé du Brexit, des retraites, de la crise du logement. Ils ont surtout séduit les militants et les jeunes, les entrepreneurs qui travaillent dans les nouvelles technologies, écrit le Guardian, les étudiants syndiqués, 1 million de 18-34 ans qui se sont inscrits sur les listes électorales grâce notamment à la mobilisation sur Internet et les liens entre les militants progressistes britanniques et ceux de Bernie Sanders aux États-Unis.
Antoine Gignot, ici à Londres, puisque vous m'entendez à nouveau, je crois, à Paris, Marc Fauvel, vous êtes...
Je vous le confirme, on vous entend tous, Patrick, hein, normalement.
Bon, très bien, c'est revenu, pardon pour ces difficultés de liaison.